grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce débat du jour. Que reste-t-il de cette culture malienne après tant de péripéties qu'a connu le pays durant les deux dernières années? Cette question sera largement débattue dans le grand dialogue d'aujourd'hui. Un grand dialogue qui reçoit pour l'occasion celle qui a en charge le ministère de la Culture, Madame Diaye Rahma Diallo. Madame le ministre, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Sidi Bé.
Nous parlerons ce soir de la reconstruction des biens culturels secoués par les événements du Nord et nous verrons comment redynamiser les industries culturelles au Mali. Et pour cela, en plus de Madame le Ministre, nous avons fait appel à Lazare Elundo, représentant national de l'UNESCO, et Aluni Frandiaye, entrepreneur culturel. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Je suis Famoussa Sidibé et Petit Ngara est à la mise en onde.
Studio Tamani.
Le patrimoine culturel malien a connu des dommages sans précédent durant la crise. Pour l'UNESCO et ses partenaires, il est indispensable de prendre conscience du rôle primordial que joue le patrimoine culturel comme facteur de paix et de cohésion sociale à un moment où la communauté internationale contribue à la reconstruction du Mali. Cette action de réhabilitation du patrimoine culturel endommagé ne se limite pas à la reconstruction matérielle, mais traite des questions d'identité, de dignité et d'édification d'une paix durable au Mali. Alors, première question, madame, pourquoi avoir accepté notre invitation ?
Avoir accepté votre invitation, je considère pas ça comme une invitation, mais comme une opportunité à moi offerte, comme une chance d'être à table avec des acteurs que vous êtes, Tamani, des acteurs fondamentaux de la culture. Monsieur Elundo, notre partenaire privilégié, et Monsieur Ifrandjai, Aliou Ifrandjai, un entrepreneur culturel, un entrepreneur de l'industrie culturelle qui est un exemple pour nous.
Alors, madame, dans quel état avez-vous trouvé les biens culturels du Mali, sachant que vous héritez d'un département, le département de la culture, après une crise profonde et multiforme qu'a connue le Mali?
Comment est-ce que j'ai trouvé les biens culturels, le patrimoine culturel, aussi endommagé que possible? Je pense que nous n'avons pas besoin de faire notre tableau plus que aussi clair qu'il ne l'est déjà. Ceci dit, c'est lamentable, c'est regrettable. C'est une... j'ai envie de dire que c'est une honte. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et nous avons un proverbe qui dit que ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors, le grand désarroi, c'est ce constat. Mais le grand bonheur, c'est cette mobilisation de tous les partenaires, de tous les amis du Mali, autour du projet de réhabilitation, de reconstruction du patrimoine culturel.
Alors, parmi ces partenaires, il y a bien entendu l'UNESCO. Les manuscrits et les mausolées de Tombouctou ont beaucoup souffert de la crise. On en parle depuis deux ans, mais certaines mosquées, comme celle de Djéné, souffrent également des coupes pour cause. Il y a les intempéries, il y a d'autres facteurs. Le Mali est-il capable aujourd'hui d'assurer leur entretien, monsieur Lionou?
Le Mali assure déjà leur entretien. Pour nous qui sommes un des partenaires du Mali, nous sommes aussi là parce que la volonté en fait la plus forte est celle du gouvernement malien, celle des Maliens, celle des communautés maliennes qui nous ont dit très clairement notre culture, nous nous battrons jusqu'au bout pour ne pas la perdre. Et les efforts que nous voyons aujourd'hui, les facilitations que nous avons qui nous permettent ensemble avec nos partenaires, le ministère de la Culture et tous les experts maliens qui nous apportent leurs connaissances, leur expertise et toutes les communautés qui nous apportent leur savoir-faire, les maçons de Tombouctou et tous les autres qui s'occupent de la préservation des manuscrits, les propriétaires de bibliothèques. Quand on voit tout ça, il est évident que notre rôle à nous n'est que d'accompagner ce grand travail que font déjà les Maliens. Donc je réponds avec beaucoup d'aisance à votre question que les Maliens entretiennent et protègent leur culture.
Alors, quel est le rôle d'un acteur culturel, un entrepreneur culturel que vous êtes, Aluni Frandiaye? Comment est-ce que vous définissez votre travail aujourd'hui après tant de péripéties?
Bon, je dirais que notre travail, ça serait de créer une articulation entre les politiques publiques et le grand public. Parce que qui parle de mémoire, qui parle de culture, il faudrait bien que le grand public ait accès à ses œuvres. Il faudrait que le grand public ait accès à ses mémoires. Nous y travaillons par le biais de la télévision, par le biais de la radio, par le biais des publications, par le biais des écritures de scénarii, par le biais de production de romans, etc. etc. Donc ce travail, ça, c'est le nôtre. Et je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui, ça doit être considéré par nous comme une opportunité, parce que ces richesses, aujourd'hui, l'avantage du désastre que nous vivons aujourd'hui, c'est que le monde entier regarde vers notre richesse, découvre quelque chose qui est là, et nous espérons profiter de ce problème pour rebondir, je dirais.
Alors, Madame le ministre de la Culture, certains festivals sont totalement à l'arrêt aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut redynamiser ce secteur ?
Alors, redynamiser, réorienter, je pense que ça va de pair. Le Mali est un pays riche en culture, en civilisation. Et nous avons des hommes, des acteurs très ingénieux. Et c'est vrai que nous avons ce désastre, comme le disait tantôt M. Frangiai, au nord du pays, dans le septentrion du pays, mais nous avons d'autres relais et d'autres opportunités. Nous avons l'exemple, par exemple, de Mamoud Afé avec le Festival du Niger, qui est un festival dont nous sommes très fiers. Nous avons le Triangle du Balafon, qui se prépare d'ailleurs pour dans les prochains mois à Sikasso. Alors nous avons autant le nord, mais nous avons aussi le sud. Et nous avons le Festival de la Musique que nous attendons. Nous avons également le Grand Chœur qui sera bientôt organisé le 27 juin, justement, par Amadou et Mariam Bakayogo. Alors, les festivals, nous en avons beaucoup.
Et les festivals vont reprendre vie.
Je pense que c'est en cours déjà.
Ok. Alors, Lazare Ilundu, représentant national de l'UNESCO, est-ce qu'au-delà de la reconstruction des mausolées de Tombouctou, l'UNESCO s'investit également dans le développement d'autres secteurs comme le festival de Sakane, par exemple?
Vous savez, l'UNESCO accompagne les différents États qui sont membres de l'organisation à travers ces instruments normatifs. Et ces instruments normatifs pour protéger la culture sont nombreux. Vous avez différentes conventions, pas simplement celle du patrimoine culturel, mais aussi tout ce qui touche à la diversité des expressions culturelles qu'il faut protéger, mais aussi au patrimoine immatériel, au trafic illicite, la lutte contre le trafic illicite et bien d'autres conventions qui sont très importantes. Donc, il s'agit d'une approche globale. Vous savez, la culture ne se limite pas simplement au patrimoine culturel. Effectivement, la culture, c'est un ensemble très cohérent de plusieurs éléments qui contribuent aussi à la cohésion sociale de tous les jours, du développement. Et c'est dans cette voit que nous sommes engagés. Et on en parle parce qu'au Mali, on est en plein cœur de cette problématique. Donc, nous venons aussi de rencontrer une partie des acteurs culturels pour comprendre, après la crise, quels sont leurs besoins, leurs priorités. Et c'est vrai que nous sommes très visibles aujourd'hui sur la question du patrimoine culturel parce que le patrimoine culturel a été fortement endommagé et que c'est la dignité du peuple malien. Il faut travailler énormément pour le construire. Mais en parallèle, nous travaillerons aussi, et nous commençons déjà à travailler ensemble avec le ministère de la Culture sur les autres questions. Et les festivals, comme a dit Madame le ministre de la Culture, sont déjà en train de revivre.
Alors, Alioune Frangiai, ne voyez là aucun sentiment péjoratif, mais plutôt quelque chose de dynamique. À chaque fois qu'on lance un chat en l'air, il retombe toujours sur les pieds. Est-ce que ça a été votre cas durant cette crise?
La crise a été extraordinairement pénible pour moi. Ça a détruit à peu près une quarantaine d'emploi chez moi, j'ai dû fermer. Mais ça a quand même un peu nourri ma créativité. La preuve, on vient de créer Vérité de soldat. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vu sur TV5. Taniné beaucoup, je pense que les gens l'ont vu. Et là, on va créer une adaptation libre de Tartuffe, de Molière, qui va s'appeler Inch'Allah. Et donc, ça nous a quand même nourri notre créativité. Mais ce qu'il faudrait pas oublier, c'est que la culture est au cœur de la construction de la paix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que l'homme est d'abord un moteur culturel. Vous lui enlevez son logiciel, il devient comme une bête. Et construire, mise à niveau régulièrement ce logiciel, ça va nous permettre de partager avec le maximum de personnes des valeurs de vie ensemble. Et là-dessus, nous, c'est notre responsabilité de pouvoir faire cela. C'est-à-dire, on a des mécanismes traditionnels que nous utilisons beaucoup, les manas, les kotebas, et toutes nos productions sont inspirées de ça. Si vous avez vu Vérité de Sola, c'était un mana. Si vous avez vu Tainibou, c'était du Koteba. Si vous avez vu Plus fort que mon père, c'était du Ziri, qu'on a fait avec le rappeur Ramsès, qui a tourné en Europe, qui bientôt on va tourner dans toutes les écoles, pour leur faire comprendre que l'autre pays, la construction, ça passe par le travail, par de la créativité. Et ça ne passe pas par dire la faute c'est l'autre. Et ça, si nous arrivons véritablement à faire qu'il y ait une vraie industrie, qui fait que nous arrivons à prendre une grosse part dans la programmation de notre chaîne de télévision, dans la programmation de nos radios, dans nos bibliothèques et même sur nos places publiques, nous allons créer des valeurs, nous allons créer des logiciels qui sont en phase avec le 21e siècle et créer le Mali à nouveau. Et c'est très important ça. C'est pourquoi la culture, c'est la matière première de la construction d'une société. Après, les autres matières viendront. Mais tant que l'homme n'est pas suffisamment, comme on dit en Bamana, kunafoni, tant que l'homme n'a pas l'esprit libéré, il est impossible de pouvoir créer une société homogène. Et là, je lance un appel aux partenaires que c'est très curieux de voir qu'on investit beaucoup dans autre chose qu'on n'investit pas assez dans la culture. Que ce soit au niveau du gouvernement, Madame le ministre est là, elle est très sensible à nos appels. Le représentant de l'UNESCO est là. J'espère qu'il va servir de relais auprès des autres partenaires.
Ça sera d'ailleurs le thème de notre troisième volet. Nous allons en débattre, mais juste avant, nous observons quelques secondes de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz. À Ségou, vous êtes en train de nous suivre sur la radio Sania et à Koulikoro, en deuxième région, par la radio Djamana. Le grand dialogue du studio Tamani d'aujourd'hui est consacré, je vous le rappelle, à la culture. Et cette deuxième partie parle des facteurs de la culture, facteurs de paix et de développement. Nos invités, Madame Ndiaye Rama Diallo, ministre de la Culture, Lazare Elundo, représentant national de l'UNESCO, et Alioune Ifran Ndiaye, entrepreneur culturel. Quel rôle joue la culture dans la résolution de la crise que vit le Mali, Madame la ministre de la Culture?
Merci, Monsieur Sidibé. Alors, quel rôle joue la culture? Moi, je voudrais prendre cette question sous l'angle de la cohésion sociale. Alors, je pense que la culture est la matière première, comme le disait l'autre tantôt, de la paix, de la cohésion sociale, vecteur de réconciliation nationale, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui au Mali. Pourquoi la culture, c'est d'abord anticiper avant de régler les conflits quand il y en a. Nous avions parlé la semaine dernière lors des journées nationales du patrimoine culturel du Sinangouya. Alors pour qui comprend vraiment le système du Sinangouya propre au Mali, à la civilisation malienne, je pense que, encore comme le dirait l'autre, il n'y aurait pas de guéguerre, jamais de guéguerre entre le Touareg et le Bozo, par exemple. Si nous prenons également l'autre angle, qui est celui des griots, je pense que vous aviez même discuté de cette thématique hier tout près. Comme j'ai bien apprécié le griot qui disait que la reconstruction des biens se fait à travers la culture d'abord. Et quand ils sont consultés, il y a toujours une solution. Et qu'en période de guerre, le griot ne va jamais en prison. Alors je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Vous voyez que nous puisons dans la culture. Le Recotrade, à titre d'exemple, joue un grand rôle.
Le réseau des communicateurs traditionnels.
Le réseau des communicateurs traditionnels, on leur fait toujours appel et ils jouent leur rôle en termes de sensibilisation, de prévention de conflits et de règlement de conflits. Nous avons les acteurs, des entrepreneurs comme Ali Unifrangiai. Il parlait tantôt de la vérité de soldat. Il a beaucoup d'exemples de réalisation. Ce qui marche beaucoup dans le contexte même de sensibilisation
à la cohésion
sociale. Nous avons le CNCM qui est chez nous, qui joue un véritable rôle en créant de beaucoup de micro-programmes qui passent en ce moment d'ailleurs à la télé malienne. Toujours dans le cadre de la sensibilisation et de la réconciliation. Les artistes jouent un grand rôle. La dernière fois encore, nous avons eu droit à une belle prestation de l'ensemble instrumental qui a composé une chanson dans toutes les langues nationales, surtout en Touareg, en Soraï et en Bambara, autour de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation.
Alors, Ali Unifrangiai, à l'écho de tout ce que vient d'énumérer Madame le ministre, est-ce que finalement il y avait, vous étiez envahi de l'ingéniosité? Comment est-ce que ça s'est passé? Moi qui n'ai pas de matière.
Oui, bon, n'ai pas manqué de matière intellectuelle et les mettre en œuvre, il y a un océan. C'est le problème que bon, nous, on avait un outil, on avait Blomba, ça nous permettait de pouvoir réunir les acteurs, d'écrire, de mettre des écrivains à contribution, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais ce que les gens doivent savoir, quand Modibo Keïta a décidé que le mariage va se faire, que tous les Maliens sont devenus des citoyens, et que tous les Maliens sont les orons désormais à partir du 22 septembre, Le code de mariage qu'il a mis en place, il a fait accompagner par quoi? Par une chanson, Tata Bambo Kouyaté, Bambo Munkadi Mouye Okadoma. Cette chanson a fait plus dans le mariage entre griots et ce qu'on appelait Oran, etc., etc., plus que le texte lui-même. Parce que les gens ont été tellement emportés par cette chanson, il y a eu tellement un engouement. J'ai fait un film documentaire là-dessus, moi-même j'ai été emporté par une chanson qui a fait que la société a évolué, la société a bousé dans ses limites psychologiques. Mais pourquoi nous ne faisons pas ça aujourd'hui? Pourquoi nous ne faisons pas? Ben nous, tout le monde, c'est-à-dire l'État, les entrepreneurs culturels, les artistes, etc., etc. Mais il faut imaginer un cadre pour cela. Il faut donner quand même un peu de pouvoir à l'industrie culturelle. L'industrie culturelle telle qu'on la voit aujourd'hui, je ne l'appelle pas industrie. Pour nous, nous essayons d'évoluer vers une vraie industrie culturelle.
Mais Aline, vous êtes bien une industrie.
Pas encore.
Alors, Lazare Elundo, représentant national de l'UNESCO, le rôle de la culture dans la paix, quel a été le rôle de l'UNESCO en matière de paix pour le Mali?
Écoutez, moi je voudrais expliquer cela par
un événement. Quand, en mai 2012, les régions nord ont été occupées et que les populations de Tombouctou, par exemple, qui avaient pour habitude, à la fin des prières, à la grande mosquée le lundi et le vendredi, d'aller juste célébrer, rendre hommage à tous ces érudits et grands personnages intellectuels qui avaient fait de Tombouctou au XVIe siècle, à l'époque de cette grande université, et qui ont permis de structurer cette société de paix qui était à Tombouctou, à travers ces mausolées qui représentaient effectivement ce souvenir de ces grands exemples de personnages qui donnaient des leçons de paix, et que ces éléments importants devaient être commencer à être menacés de destruction, l'UNESCO s'est tout de suite inquiété, parce que la culture, c'est important. Sans la culture, vous enlevez la dignité et vous enlevez ce qui constitue la mémoire et l'histoire des peuples. Et nous protégeons la culture, nous protégeons la diversité culturelle. Et sans la culture, les peuples ne se parlent plus. Les peuples se font la guerre. Et c'est la culture qui donc doit rapprocher, et il faut protéger la culture. Je pense qu'avec cet exemple, c'est pour comprendre pourquoi l'UNESCO s'est tout de suite tenue aux côtés du peuple malien, à la demande du peuple malien, pour protéger la culture, parce que c'est la culture est facteur de paix. Et la culture, aujourd'hui, encore plus qu'hier, devra contribuer à la résolution des conflits, à la stabilisation. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'entendre Madame le ministre et aussi Alioune parler de ces aspects et de lancer aussi cet appel.
Alors, Madame le ministre de la Culture, il y a aussi un aspect, le développement, la culture, comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement? Après la paix, il faut bien développer le pays.
Vous l'avez dit, Monsieur Sidi Bé, déjà le développement des industries culturelles, le développement d'un pays passe par la création d'emplois. Comme on le sait, on le pratique, on le vit toujours. Un emploi de créer au Mali.
Allez-y.
Un emploi de créer au Mali, c'est donner l'opportunité à un chef de famille de nourrir au moins 5 bouches. Pour parler traditionnellement. Alors, le développement passe par des grandes décisions. Et je pense que le gouvernement a non seulement pris conscience, mais est en train d'œuvrer dans le sens du développement de socio-économique du pays à travers la culture. Déjà, vous êtes sans savoir que il y a 2 semaines, nous avons eu un décret très important dans l'histoire de la culture au Mali. C'était le décret pour la redevance des droits des auteurs. Nous avons en cours un projet de loi pour le statut des artistes. Nous avons en cours un projet de création de la Maison de la Culture. Alors, je pense que ce sont des outils essentiels. Monsieur Ndiaye Alioune parlait tantôt de cet appel à la communauté, aux amis du Mali. Et je pense que c'est le lieu de rappeler que ce matin, nous avons signé une convention avec l'UNESCO pour la mise en œuvre du plan d'action pour la réhabilitation, la reconstruction du patrimoine culturel au Nord. Aussi, demain, plutôt samedi, nous avons un voyage en vue avec le président de la République du Mali pour un plaidoyer au Qatar à Doha autour d'un projet de renaissance de Tombouctou. Alors, encore une fois, c'est la création des hommes, des entrepreneurs comme Alioune, comme Mahmoud Afé, pour ne citer que ceci, pour permettre aux Maliens de prendre une part importante du développement.
Alors, Madame le ministre, une de vos tâches premières quand vous êtes arrivée à la tête du département, c'était justement de vous attaquer à ce problème de droit d'auteur. Pourquoi ce domaine vous tient tant à cœur?
Une simple raison. Il s'agit pour nous de permettre aux hommes de la culture de vivre de leur richesse, de leur créativité, de leur art. Donc c'est des droits qui leur reviennent et il est temps pour nous. Un exemple en cours également, c'est une circulaire du Premier ministre nous donnant l'opportunité de changer la musique des répondeurs de l'administration. Nous avons en ce moment, si vous appelez un téléphone de l'administration du Mali, nous avons du Mozart qui passe. Nous avons de grandes musiques classiques d'outre-mer qui passent. Je ne suis pas contre ces musiques, je les écoute même chez moi. Mais cependant, je pense que la valorisation, le développement passe par la valorisation de ce que nous avons déjà. Alors pour ce faire, nous avons pris la décision au niveau du gouvernement de changer toutes les musiques de ces répondeurs pour permettre déjà au gouvernement de payer des droits à ces artistes maliens.
Alors Alioune Frandia, il y a un mot peut-être sur cette bataille de madame pour les redevances que doivent percevoir les artistes aujourd'hui.
C'est normal que nous réfléchissions à un nouvel...
Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu trouver une copie de Tainimbu.
C'est en cours. Vous l'aurez. C'est normal parce que le monde change aujourd'hui à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il était temps qu'on pense à une nouvelle forme de rétribution des artistes. Et si la loi, on l'a entendu depuis longtemps, mais maintenant la mise en œuvre, il va falloir qu'on soit un tout petit peu...
Plus achevé.
Voilà, sur la pratique. Ce que disait Madame le ministre, c'est que la culture permet de créer beaucoup d'emplois. Le festival sur le Niger, au moment fort, c'est des centaines d'emplois que ça crée. Ségou devient quasiment la capitale du Mali, parce que tout le monde, les cadres, les jeunes, tout le monde se retrouve à Ségou pour vivre pendant une semaine quelque chose d'extraordinaire. Ça booste la culture de la ville, etc. etc. Blomba, nous, on employait 38 personnes. Là, Okloni qui est en train de voir le jour, c'est 118 personnes. Et plus les emplois qui ne sont pas directs, qui sont indirects, c'est-à-dire si nous signons avec un écrivain pour dire nous commandons 12 épisodes d'une série, c'est des emplois qui sont indirects. Et nous, si nous pouvons utiliser des directeurs photos qui ne sont pas employés directement, qui ne sont pas salariés, mais qui étaient des emplois. C'est ce qu'on faisait avec Blomba. On a utilisé à peu près une centaine de comédiens quand nous fonctionnions. Et donc ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme en matière de créativité, de richesse directe. Mais là où la culture est essentielle, c'est la construction du logiciel. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, une des causes majeures de la crise malienne, elle est citoyenne. Et qu'est-ce qu'il faut pour véritablement mettre en place une vision citoyenne du Mali? Ça passe par la culture, ça passe par le moteur culturel. D'où moi, le mot Banyango que j'utilise très souvent. Et donc si nous arrivons, par le biais de la culture, à faire évoluer que la Banyangoya évolue vers la Badenya dans la société malienne, je vous jure qu'une grosse partie de la crise sera gérée.
Merci. Alors nous allons observer quelques secondes de pause juste avant d'entamer la troisième partie du débat qui parle de financement des projets culturels.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tizdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Trois radios ici à Bamako reprennent nos programmes, les programmes du studio Tamani. Il s'agit de Guintan, Benkan et Liberté. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de culture. Nous sommes de ce pas à la troisième partie du Grand Dialogue qui parle du financement des projets culturels. Nos invités, Ndiaye Rama Diallo, ministre de la Culture, et oui, ministre de la Culture avec nous ce soir, Lazare Elundo, représentant national de l'UNESCO, et Aliouni Frandiaï, entrepreneur culturel. Alors, juste avant d'entamer cette troisième partie, nous allons permettre à Lazare Elundo, représentant national de l'UNESCO, de donner son point de vue sur la culture comme facteur de développement.
Non, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Juste pour rappeler, nous avons un entrepreneur culturel avec nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat culturel. Ça veut dire que la culture contribue à la création des emplois, contribue à l'économie. Elle peut être micro et peut-être pas macro, mais elle est là tous les jours, elle fait vivre de nombreux foyers. Aujourd'hui, quand vous avez des éléments culturels, quand vous avez une culture à montrer, quand vous avez des expressions culturelles à valoriser, quand vous avez des festivals, qu'est-ce qui se passe? Vous développez autour toute une machine. Les gens viennent à un endroit, ils mangent, ils se logent, ils visitent, ils dépensent. Et c'est une machine qui se met en route, c'est toute une économie qui tourne.
Qui fonctionne.
Et ça, c'est très important. C'est toujours peut-être très évident de penser que la culture, c'est simplement le passé. Non. La culture, c'est aussi ce qui nous fait vivre aujourd'hui au quotidien. Et c'est pourquoi nous arrivons à un moment où on parle des objectifs du millénaire pour le développement. Et qu'à ce moment précis, tout le monde s'est aperçu qu'on n'avait malheureusement pas pris en compte le rôle de la culture. Et justement, on se pose la question de savoir si la culture... On ne se pose même plus la question, je dirais. On reconnaît aujourd'hui que la culture contribuera au développement de manière très évidente. Et pour preuve, le Mali, qui est le terreau, le pays où la culture s'exprime de façon si importante... à participer à ce débat avec Madame le ministre de la Culture, qui était présente elle-même à New York quand il y a eu ce débat à l'Assemblée générale pour parler de ça de manière plus évidente. C'est pour dire que il n'y a donc plus la question. La culture contribue au développement, c'est une évidence.
C'est une évidence. Alors, Madame le ministre de la Culture, nous nous en voudrons si nous partons d'ici sans parler de biennale. Comment est-ce que ça se passe actuellement avec la biennale?
Alors, la biennale est une des grandes richesses du ministère de la Culture, mais du Mali. Nous sommes en cours de réalisation de la prochaine biennale. Il y a déjà un comité de réflexion autour de la question. Mais avant de parler de la biennale, nous avons un autre projet en cours qui est le triangle du Balafon, comme nous le disions tantôt, qui est en cours de préparation aussi. C'est le lieu de dire que cette fois-ci, c'est vrai que la biennale, enfin pas la biennale, mais le triangle du Balafon intéresse beaucoup de pays. Nous avons d'habitude d'organiser ça avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina, l'Angola, le Cameroun. Cette fois-ci, nous voulons l'ouvrir un peu davantage. Nous avons demandé à la Chine d'être un pays, le pays
le
invité
d'honneur. Le triangle devient large.
Le triangle s'élargit. Le triangle s'élargit. Et donc, la Chine a presque répondu favorablement à cette invitation. Et je pense que nous aurons non seulement la participation du ministre de la Culture de Chine, mais également d'une troupe chinoise, parce qu'ils connaissent aussi le xylophone. Donc nous avons ça en commun. Et nous avons également justement, Monsieur Elundo parlait tantôt de la culturalisation des objectifs du millénaire, un plaidoyer que nous avons mené à New York, voilà, il y a de cela deux ou trois semaines déjà. Et c'était le lieu pour nous également de faire un plaidoyer auprès des ministres de la culture du monde francophone pour venir faire une première rencontre pour la création d'un groupe de, d'action. Et donc, il s'agissait de faire sortir ce type de plaidoyer de la Cour des Nations Unies et les amener petit à petit vers chez nous. Alors, donc, le premier sujet à l'ordre du jour pour cette rencontre des ministres de la Culture, c'est justement autour de la, du triangle du Balafon.
Voilà. Alors, Alioune, aujourd'hui, est-ce qu'il est facile d'obtenir un financement ?
Pas facile. Pas facile, d'autant plus que nous, personnellement, je suis très ambitieux. Moi, je réfléchis à coups de milliards. Et, j'essaie de me passer de subventions, c'est-à-dire de passer par les banques, d'avoir des prêts. Et à partir des prêts, être opérationnel. À partir du moment où je suis opérationnel, je peux proposer du contenu et que j'ai les moyens de mettre en œuvre ce contenu, c'est en ce moment que je vais chercher les subventions. Les banques, nous n'existons pas dans les cases de banques. Une banque, c'est un projet qui arrive et il y a un marché. Or, il se trouve que nous, nous créons notre marché, c'est-à-dire notre marché n'existait pas. Mais par le biais de notre création, de notre créativité, de la qualité des produits qu'on propose, le marché se crée. Il y a des potentiels, c'est tout. Et donc, le banquier a du mal à comprendre ça. Mais heureusement, moi, je suis un enfant chouchou, parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir des financements de banque jusqu'à l'ordre de 500-600 millions. Je suis encore en train d'aller très loin, jusqu'à coûte milliard. La BDM m'a suivi, la BOAD aussi est en train de suivre, et d'autres banques, on essaie de les convaincre. On espère avoir, parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, on n'a pas eu l'accompagnement des autorités publiques là-dessus. Au contraire, on a eu quand même des actes qui ont fait peur aux banques qui ont reculé. Ben, les nouvelles autorités, on les connaît, on connaît leur ouverture d'esprit, on pense que ça va se faire. Et il est temps que nous soyons forts structurellement, avec des moyens techniques et autres. Par exemple, pour prendre en charge la biennale, il faudrait que l'État cesse d'être opérateur. L'État impulse, laisse la mise en œuvre aux professionnels, aux entreprises culturelles. Et donc, il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Et là-dessus, il faudrait que les autorités publiques encouragent les banques, mettent en place des garanties, des fonds de garantie pour nous permettre d'accéder à des prêts.
Voilà. Alors, Madame la Ministre, est-ce qu'il existe des fonds de financement de projets culturels ? Si oui, est-ce qu'ils sont conséquents ?
Alors, nous sommes en plein dans la mise en place d'un fonds de garantie pour l'industrie du cinéma, par exemple. Je pense que Alioune sera l'un des premiers à bénéficier de ce type de fonds pour avoir fait ses preuves. Et je rebondis sur son plaidoyer légitime, parce que venant du privé moi-même, je sais toutes les difficultés. Je connais toutes les difficultés et je pense que je compte utiliser cette expérience comme, si vous voulez, une opportunité. Parce que le partenariat, il faut le dire, il n'y a pas de développement d'industrie culturelle possible sans partenariat public-privé. Nous en sommes très conscients. Et ce sera vraiment une réorientation de notre vision. Nous sommes en plein dans le processus, déjà, comme je vous l'ai dit tantôt, à travers la mise en place de ce fonds, mais au-delà, nous avons, par exemple, c'est l'occasion de le dire, nous avons prévu un cocktail de travail au Musée national avec tous les acteurs de la culture. Vous êtes tous invités.
Et merci de l'invitation.
Je vous remercie, moi. Et c'est pour justement présenter cette politique culturelle qui existe déjà et de l'orientation qu'on veut lui accorder pour permettre aux uns et aux autres et à tous les acteurs de la culture de contribuer. Parce que pour connaître un mal, il faut d'abord pouvoir le diagnostiquer. Et avant de trouver la solution, et moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et on ne peut pas se mettre dans des bureaux aujourd'hui pour concevoir des solutions. Il faut la participation de tous.
Ce qui est entendu. Alors, à l'UNESCO, est-ce que le plaidoyer de Alioune est entendu ? à l'une et au même titre que tous ses collègues.
Nous sommes de toute façon, dès le départ, nous avons toujours été convaincus que c'est important de financer la culture. Vous savez que la convention sur la diversité des expressions culturelles ne date que de 2005 et que ça a été une négociation entre plusieurs pays pour essayer de maintenir un cadre, de donner un cadre dans lequel l'économie de la culture, si on peut dire d'une certaine manière, s'exerce dans un cadre de coopération internationale assez clair pour permettre pas que certaines cultures, certaines économies culturelles prennent le dessus sur d'autres, mais que la promotion des spécificités culturelles, la diversité culturelle, des entrepreneurs culturels qui font ce grand travail-là continue. Notre rôle à nous, en tant qu'UNESCO, est de poursuivre ce plaidoyer en tant qu'organisation qui en a la mission auprès des autres pour faciliter et lever ces barrières dont Alioun parlait. Pour la plupart des entrepreneurs culturels. C'est ce que nous essayons de faire. Bien sûr, nous avons aussi au niveau de l'UNESCO des fonds qui permettent de soutenir des entrepreneurs culturels. Le Fonds international pour la culture qui existe à l'UNESCO, qui a par exemple financé une association à Ségou qui s'appelle Smart Ségou, que beaucoup connaissent et qui va probablement continuer à financer d'autres dans l'avenir.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lazare Lundo de l'UNESCO. Alors, vous ne m'en voudrez pas, messieurs, si je donne le dernier mot à madame le ministre.
Non, pas du tout, au contraire.
Merci beaucoup pour nous donner son point de vue, ses perspectives aujourd'hui pour le département dont elle est en charge.
Alors, dernière phrase peut-être, nous voyons la culture comme vecteur de développement et de réconciliation. Alors, au-delà de ça, il s'agit de placer la culture au cœur même du développement socio-économique de ce pays. Et c'est possible. Si je vous donne l'exemple de la France, qui reçoit plus de 80 millions de touristes, plus que ses populations, autour d'une culture
et nous avons gastronomie
ben oui, qui est de la culture aussi, qui est de la gastronomie aussi fait partie de la culture. Nous avons justement l'art culinaire. Nous prévoyons d'ailleurs un salon de l'art culinaire.
Merci beaucoup, madame. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Nous espérons avoir contribué à cela. C'est avec ça que nous nous quittons aujourd'hui. Que reste-t-il de la culture malienne après tant de déboires liés à la crise multiforme qu'a connu le pays? Cette question a été largement débattue dans le grand dialogue d'aujourd'hui. Un grand dialogue qui recevait pour l'occasion, madame le ministre de la Culture, madame Diaye Rama Diallo. Un grand merci à vous, madame. Merci beaucoup pour avoir fait le déplacement.
Merci à vous.
Il était question de la reconstruction des mausolées de Tombouctou et de la redynamisation des secteurs culturels, de l'industrie culturelle au Mali. Ils nous ont également fait l'honneur d'être à ce débat. Lazare Lundo, représentant national de l'UNESCO, et Alioun Ifrane Diaye, entrepreneur culturel. Merci, messieurs, pour votre présence. Merci, chers auditeurs, pour votre aimable attention. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diarra était à la mise en onde et la réalisation était l'affaire de Ousmane Diadié Touré. Je vous dis à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.